Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Comment nous exprimer devant toi cette heure ? Seigneur, nous languissons pour ton retour. Nous languissons lorsqu'enfin, Seigneur, nous serons devant toi. Et que, Seigneur, ton nom sera écrit sur nos fronts. Il l'est déjà dans notre cœur depuis le jour où tu nous as sauvés. Mais, Seigneur, nous sommes promus à plus que cela, à cause de ta miséricorde et de ta grâce. Oh, tu nous appelles, Seigneur, à une vie glorieuse, et tu nous prépares un corps nouveau, un corps qui n'aura jamais connu le péché, un corps glorifié, un corps éternel, un corps tel que le tien. Bientôt tu es là, Seigneur. Oh, ton nom est au-dessus de tout nom, et nous voulons t'adorer, Seigneur. Merci. Ouvre-nous le cœur, ouvre-nous la pensée, fais-nous comprendre ta sainte parole, afin, Seigneur, que la connaissant, nous puissions grandir encore devant toi, et que beaucoup aussi puissent rentrer dans le royaume des cieux par la connaissance de ta parole. Merci, Seigneur. Depuis plusieurs dimanches déjà, nous sommes dans les 10 commandements, et nous n'avons pas beaucoup avancé, si ce n'est que jusqu'au 2e commandement, tu ne te feras pas de statue ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans le ciel ou en bas sur la terre, et tu ne te prosterneras point devant elles. Maintenant, nous voulons poursuivre avec ce commandement qui se trouve au verset 7 du chapitre 20 d'Exode. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne tiendra pas pour innocent celui qui prendra son nom en vain. Dans d'autres versions, il est dit, ne laissera point impuni celui qui prend son nom en vain. J'aimerais lire avec vous encore au psaume 18. Verset 1er, verset 2 plutôt, il dit, ça dépend des Bibles, hein, il dit, je t'aime, Éternel ma force, Éternel mon roc, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je me réfugie, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite, je m'écrie, loué soit l'Éternel. Et je suis sauvé de mes ennemis. Verset 26. À celui qui est loyal, tu te montres loyal. Avec l'homme intègre, tu te montres intègre. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec les pervers, tu te montres avisé. Car c'est toi qui as sauvé les gens malheureux. C'est toi qui sauves les gens malheureux et qui abaisse les regards des hautains. C'est toi qui fais briller ma lumière, l'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je saute une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se réfugient en lui. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui me ceint de force et qui rend parfait mon chemin. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et me fait tenir sur les hauteurs. Il exerce mes mains à la bataille et mes bras tendent l'arc de bronze. Tu me donnes le bouclier de ton salut. Ta droite me soutient et ta miséricorde me fait devenir grand. Tu me fais allonger le pas et mes chevilles n'ont pas chancelé. Alléluia. Voilà celui que nous adorons. Là, nous venons de lire quelques passages merveilleux de ce psaume 18. Mais combien d'autres ne pourrions-nous pas lire encore qui exalte l'Éternel, notre Dieu, qui exalte son nom qui est au-dessus de tout nom. Et combien les cantiques que nous avons chantés ce matin sont dans le cadre et dans l'esprit de ce qui va être proclamé ce matin. Son nom est grand, son nom est saint, son nom est notre espoir. Son nom est puissance et force. Il n'y a pas d'autre nom que le nom de notre Dieu et de notre Sauveur. En qui avez-vous confiance? En qui placez-vous votre confiance? En qui espérez-vous? Ou en quoi espérez-vous? Sur qui pouvez-vous compter? Sur qui pouvez-vous mettre avec assurance toutes les valeurs que ce qui sont les vôtres? Toutes ces valeurs, ce corps, cette intelligence, même ces biens, la célébrité, la crédibilité, je devrais dire, de beaucoup de gens, est très incertaine et peu sûre. Et plus que jamais, toutes les valeurs morales tombent en décrépitude, tombent en poussière. Leurs paroles et leurs engagements sont des plus incertains. Quand quelqu'un s'engage en quoi que ce soit dans ce monde, l'engagement n'est pas ferme et n'est pas sûr. Les promesses ne se tiennent pas. Elles varient suivant l'humeur. Elles varient suivant l'intérêt de l'individu. Car tout ce que l'on fait aujourd'hui a une motivation cachée, un désir, quelque chose d'inavoué. On dit, « Oh, c'est généreux de toi de me donner cela. Oh, c'est généreux de toi de vouloir m'aider. » Mais une autre motivation est derrière le cœur de celui qui veut se passer pour être généreux. Plein de duplicité, même dans la générosité et dans le secours et l'aide que l'on accorde à celui-ci ou à celui-là. Des calculs multiples, des idées de toutes sortes, des intérêts, qui ne sont pas prononcés, mais qui, avec l'expérience, nous ont montré qu'ils cachent un monstre d'égoïsme, un monstre d'égocentrisme, un monstre d'orgueil et d'hypocrisie. Voilà dans le monde dans lequel nous nous trouvons. Dans un sondage qui a été fait aux États-Unis, où on aime bien faire des sondages, la crédibilité la plus pauvre dans l'opinion publique dans ce pays était celle des politiciens. Ensuite venait celle des compagnies pétrolières. Et ensuite, celle des marchands de voitures. Malgré tous leurs slogans commerciaux, malgré toutes leurs bonnes paroles, soi-disant qu'ils pensent à vous, qu'ils travaillent pour vous, qu'ils cherchent votre intérêt, qu'ils veulent le meilleur pour vous, malgré toutes ces belles paroles, ils cherchent leur intérêt propre avant tout. La croissance de leur empire avant tout. La croissance de leur compte en banque avant tout. Ils cherchent à vous attirer par des bonnes paroles et de l'hypocrisie pour avoir ce que vous possédez et vous donner en retour quelque chose de moindre qualité. Malgré tous les slogans commerciaux, ils ne cherchent pas votre intérêt. Certaines fois, lorsque nous voyageons, ma femme et moi, aux États-Unis et que nous allons dans ces centres commerciaux et tout ça, il y a des formules qui sont classiques. qui ont l'air d'être aimables. Aimables lorsqu'on vous parle, et lorsque le caissier vous parle, ou lorsque les gens du magasin vous parlent, vous avez une bonne impression. Mais au bout de quelque temps, c'est quelque chose qui se répète tellement de fois que vous êtes conscient et que vous savez, ça ne vient pas du cœur. Ça ne vient pas du cœur. C'est commercial. Disons que c'est pas désagréable à entendre. On préfère entendre de bonnes paroles. Mais frères et sœurs, ce n'est pas l'expression du cœur, ce n'est pas l'expression de la pensée, c'est l'expression du porte-monnaie. Malheureusement, beaucoup de prédicateurs n'ont pas plus de crédibilité qu'un marchand de voitures. Et ça, ça fait honte de le dire. En quoi pouvons-nous avoir confiance? En qui pouvons-nous avoir confiance? Dans quel homme pouvons-nous placer la confiance pour notre avenir, pour notre argent, pour notre travail, pour nos études, pour nos enfants, pour au-delà de la mort? Pouvons-nous placer notre confiance dans un religieux quelconque qui prêche quelque chose, même avec la Bible sous le bras, pour être assuré de la vie éternelle? Combien de religieux, entre guillemets, de prédicateurs, entre guillemets, cherchent d'abord leur intérêt, cherchent d'abord quelque chose pour eux-mêmes? Et pour cela, leur message est dévié. Leur message ne représente pas ce qu'il devrait représenter. Leur message n'exprime pas ce qu'il devrait exprimer. Car il y a une arrière-pensée quelque part. Dans combien de pays nous avons passé, nous avons vu de ces, entre guillemets, grands hommes. Mais quand on les voit de près et qu'on considère ce qu'ils sont, on voit autre chose. Pourtant, ils avaient bien commencé. Pourtant, ils avaient bien commencé. Mais bientôt, ils se sont déviés, pris par une idole. Une idole qui s'appelle la gloire personnelle, la popularité, l'autorité, la soif de bien. La soif d'argent, la soif de position. Ceci, nous le voyons parmi les prédicateurs. Ceci, nous les voyons parmi les pasteurs et tout ce que vous voulez. Cet esprit, nous le voyons, que Dieu nous en garde. Si de tels désirs sont dans mon cœur, Seigneur, ferme-moi la bouche. Il vaut mieux que tu me prennes, Seigneur, afin que je sois dans tes parvis éternels, que de me laisser continuer à vouloir chercher ma propre gloire plutôt que la tienne. Je ne veux pas être un voleur de ce qui ne m'appartient pas. Je ne veux pas être un voleur de ce qui n'est pas à moi. La gloire t'appartient à toi seul. Qui suis-je sinon un pécheur sauvé par grâce? Et si, Seigneur, je puis parler de telles choses, ce n'est qu'à cause de ta grâce qui est en moi, ta grâce qui m'a appelé pour annoncer ta vérité. Père céleste, tu te glorifies avec des canaux bien faibles, bien faibles. Et ce n'est pas parce que je suis fort que tu m'as appelé. Père, combien de prédicateurs ont manqué le but, quoique ayant bien commencé, et ils ont mal fini. L'argent et les avantages sont au-dessus de la bonne réputation de son nom. Ah, nous voulons parler du nom. Quelle est la réputation de ton nom? Nombreux sont ceux qui veulent entrer dans la politique, entrer dans les sphères dirigeantes, entrer dans les directions, entrer dans les avec beaucoup d'ambition. Ils ont fait de hautes études pour arriver là-bas au sommet. Je veux aller au sommet. Mais quelles sont tes motivations pour aller au sommet? Nous avons besoin d'hommes qui se tiennent au sommet. Nous avons besoin d'hommes qui dirigent. Nous avons besoin d'hommes qui décident. Nous avons besoin d'hommes responsables et qui mènent les autres qu'ils ont sous leur autorité, qui les mènent pour le bien, pour l'harmonie, pour la paix. Nous avons besoin de cela. Et si tel est ton désir, en ambitionnant ces places, nous serons derrière toi. Mais si tes désirs sont des désirs égoïstes, égocentriques, des désirs de position, d'argent, d'orgueil, de bien, nous n'en voulons pas, car tu ne vas rien faire de bon. Oh, que des hommes intègres se lèvent, mais la nature humaine est si corrompue, que trop souvent, elle commence bien, mais elle finit mal. C'est pourquoi l'apôtre exhorte, et il dit, exhortez-vous les uns les autres. Tu vois que ton frère est en train de s'égarer, ne le laisse pas. Et s'il ne va pas l'accepter, ça sera une preuve qu'il tombe et qu'il est déjà dans l'orgueil. Même si l'exhortation est exagérée, ceci arrive parce qu'il y a des exhortateurs qui sont orgueilleux aussi, attention. Et ils vont aller exhorter l'autre tout simplement par jalousie ou simplement pour le mettre en bas ou etc. Il voit une petite faute, il l'augmente. Attention! Les exhortateurs et ceux qui veulent vous reprendre n'ont pas toujours raison non plus. Mais ce n'est pas parce qu'il n'a pas raison que tu ne dois pas l'écouter. Après l'avoir écouté, reste humble, examine ton cœur et parle-lui aussi. Et dis-lui, ne crois-tu pas que tu exagères dans tel domaine ou dans tel autre domaine? Ne crois-tu pas que ta perception des choses n'est pas exacte? Frères et sœurs, c'est ça, s'exhorter les uns les autres. Tu m'exhortes, mais je t'exhorte aussi. Tu as l'Esprit de Dieu, mais moi j'ai aussi l'Esprit de Dieu. Et nous devons analyser nos sentiments et nos motivations les uns des autres. L'argent et les avantages, trop souvent, sont au-dessus de la bonne réputation de son nom. Dans Proverbe 17, il est dit, « Le nom des méchants tombe en pourriture. » Aïe, aïe, aïe. Le nom des méchants tombe en pourriture. Vous connaissez des hommes qui sont méchants, pas vrai? Et dès que vous entendez leur nom, même si vous ne les connaissez pas, mais vous les connaissez par réputation, immédiatement vous avez l'image dans votre esprit. Oh, celui-là! Oh, celui-là, voilà ce qu'on dit. Les hommes qui n'ont pas de parole, les hommes qui sont des menteurs, les hommes qui sont des roublards, des flatteurs. Vous entendez leur nom? Leur réputation les a suivis. Vous ne connaissez pas leur visage, sinon peut-être par des pages imprimées. Mais tout de suite, celui-là, son nom! Qui a-t-il dans un nom? Qui a-t-il? Il y a beaucoup dans un nom. Dans un nom. Chacun de nous portons un nom. Qui a-t-il dans ce nom? Moulamba. Ekofo. Kangoudi. Nsasi. Kabouya, n'avez-vous pas des images qui sautent dans la tête? J'ai pas dit mon nom. Il fut un temps où un nom d'une bonne réputation était recherché. Ah oui, mais ce temps passe malheureusement. Un nom où d'une bonne réputation, on le désirait, on le cherchait, on le protégeait. Et dans des familles de bonne réputation, les enfants étaient éduqués avec discipline Et s'il faisait des choses qui étaient mauvaises, papa disait, écoute, hein, tu connais le nom que tu portes, et tu vas être digne de ce nom, et je vais te l'apprendre. Une punition. On cherchait à maintenir l'intégrité de son nom, comme étant une valeur à préserver, une valeur à préserver. Est-ce que votre nom a une valeur? Au temps des 10 commandements, le nom était si important, qu'à son ouïe, il donnait toutes les caractéristiques de la personne qui le portait. C'était sa réelle identité morale. Un nom, ce n'est pas seulement l'identité de la personne physique, mais c'est aussi l'identité morale de la personne. En Israël, le nom était très important. Et quand quelqu'un passait par une expérience particulière, un changement qui réorientait sa vie, qui influençait le courant de sa vie, un nouveau nom lui était donné. Vous connaissez Abraham ? Qui devint Abraham. Vous connaissez Sarai, qui devint Sarah. Vous connaissez Jacob, qui devint Israël. Vous connaissez Simon, qui devint Pierre. Vous connaissez Saul, qui devint Paul. Pour ne citer que ceux-là. Pour connaître une personne, il faut connaître son nom. Un nom bon, qui a une bonne réputation, aura une bonne influence sur les autres. Un nom, il ne s'acquiert pas tout de suite. Ce nom est donné à la naissance, mais ce nom, en grandissant, doit s'affirmer. De quelle façon va-t-il s'affirmer? Magouilleur, menteur, féticheur, coureur de femmes, coureuse de garçons, colérique, méchant, méchante, jamais discipliné à la maison, on grandit. On est étudiant, on est orgueilleux, on croit tout savoir et on casse tout quand on n'a pas ce qu'on voudrait. Rien à recommander là, étudiant. Tu peux avoir des problèmes, tout casser n'est jamais la réponse. Tout détruire ton propre bien n'est jamais la réponse. Qu'en sais-tu de ton nom? On pourra dire plus tard, oui, celui-là, quand il faisait ses études, je le connais. Quel revendicateur! Quelle grande bouche pour être poli! Quel blagueur! Quel ambitieux! Ce nom va te suivre combien de temps encore? Jusqu'à ce que tu changes de route. Et quand tu changeras de route, Dieu te donne un autre nom. Parce que ton premier nom, il est souillé, il est sali, il est traîné dans la boue et personne ne le respecte. Voilà pourquoi ils changeaient les noms en Israël. Parce que celui qui marche avec Dieu, on doit le respecter. Non pas à cause de lui, mais à cause de celui qui est en lui et qui conduit ses pas. Il conduit mes pas. Oui, un nom peut influencer les autres. Immédiatement, quand nous entendons le nom d'une personne, nous l'associons avec quelques traits marquants de son caractère. C'est pas vrai. Tout de suite, on entend le nom, tac. On entend Noé, ah, il chante. Il dirige la chorale. Ô Seigneur. Proverbe 22, 1. Il est dit là. La réputation. On pourrait dire un nom recommandable. La réputation, c'est un nom recommandable. est préférable à de grandes richesses. Ah! Est préférable à de grandes richesses. Vous pouvez chercher de grandes richesses et acquérir mal de grands biens. Mais quel sera votre nom? Il ne va pas durer votre nom. On n'en en dira pas de bien. La réputation, un nom recommandable, est préférable à de grandes richesses. Essaye, pendant les courts temps que tu es ici bas sur la terre, à laisser derrière toi un nom duquel tout le monde se souviendra avec plaisir, duquel tout le monde, même tes ennemis, pourra dire « Cet homme était courageux, cet homme était intègre, cette femme était juste, cette femme était une femme de Dieu. » Même tes ennemis. Dieu a un nom. Et ce nom est saint. Alléluia. Dans nos Bibles, il y a le nom de Dieu avec le grand D, le D majuscule. Et il y a le nom Dieu avec le petit D, le D minuscule. Mais le Dieu que nous servons est le seul, le grand créateur et maître de l'univers. Le nom de Dieu avec majuscule le qualifie et le sépare de tous les autres et fait comprendre à tous de qui on parle. Mais à part ce nom qui exprime sa divinité, quand on parle de Dieu, sous-entendu avec grand D, on parle de la divinité créatrice. Quand on parle de Dieu avec petit d, c'est ce Dieu fabriqué, cette idole duquel nous avons tant parlé ces derniers dimanches. Ce Dieu donc avec le grand D, le grand divin, le créateur, puissant et éternel, il a des noms spécifiques qui le décrivent, qui révèlent sa personne, et qui révèle les aspects de sa personne, aspects multiples qu'on ne peut épuiser même à travers ces quelques noms que nous allons voir. Il a des noms spécifiques le révélant. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, quand on prononce le nom de Dieu, on pense toujours au Dieu Tout-Puissant que nous servons tous, je l'espère. Nous pensons au Créateur, au Dieu de la Bible, à celui qui ne peut être décrit ou représenté par aucune image, quelconque, quelle qu'elle soit. Le premier nom que nous avons de ce Dieu dans la Bible, le nom le plus ancien, le nom que nous voyons parmi dans le livre au moment de la création, dans la Genèse, et dans la bouche des patriarches, est Elohim. C'est le seul livre qui parle de lui. Seule la Bible parle d'Élohim et connaît ce nom. Pour les descendants d'Abraham, le nom, elle, devint un nom propre. Et il s'accompagne toujours d'un épithète qui souligne un aspect, un caractère, une vertu du même Dieu. J'aimerais rapidement aller là-dessus sans y passer trop de temps, mais c'est toute une étude. Et cette épithète souligne l'aspect et le caractère, un aspect et un caractère, une vertu du même Dieu. Par exemple, El Shaddai, c'est-à-dire Dieu Tout-Puissant, Genèse 17, 1. Ceci a été traduit dans notre langue. El Elohim. Elion, Dieu très haut, Genèse 14, 18. El Olam, Dieu de l'éternité, Genèse 21, 33. El Gana, Dieu jaloux, Exode 20, 5. El Hai, H-A-I, Dieu vivant, Josué 3, 10. Et ensuite, ce nom que l'on rencontre à travers toute la Bible, 6499 fois, 6499 fois, Yahvé. Le nom le plus utilisé dans la Bible. Il est rendu en français par Éternel. Et cette appellation est approximativement conforme. Ce nom se présente dans le texte original en hébreu par 4 lettres, rendu en français par YHVH. Ineffable que les Israélites craignaient de prononcer, évitaient de prononcer, n'avaient pas le droit de prononcer et auquel ils devaient substituer dans la lecture lorsqu'ils livraient le livre saint et que le nom de Yahvé apparaissait, ils devaient le substituer à un autre nom pour ne pas le prononcer tant qu'il est saint. Et ils mettaient le nom Seigneur, Adonai. Les traducteurs de la Bible, les premiers traducteurs de la Bible, transcrivirent fautivement le nom de Yahvé par Jéhovah. Jéhovah est le mélange de 2 noms différents. Mais c'est par Yahvé qu'il convient de le rendre le nom de Dieu. Le nom éternel exprime l'idée étymologique ou l'origine, si vous voulez. L'origine du nom donné par la Bible elle-même. Il est bon de savoir ces choses. Yahvé exprime à la fois être vivant et vivre dans sa racine. Immortalité, vérité, fidélité sont dans le nom de Yahvé. Elohim met l'accent sur son attribut de Dieu puissant. Et c'est pourquoi ce nom d'Elohim est employé dans la Genèse, par exemple, au moment de la création. Car c'est le Dieu puissant qui se déploie dans ses œuvres de création. Yahvé révèle davantage son essence même. C'est le nom du Dieu de la rédemption, du Dieu de l'alliance, qui se révèle à l'homme pour le sauver. Dans d'autres expressions composées, avec le même nom, complète cette révélation de la providence et du salut divin. Yahvé Jiré, l'Éternel pourvoira. Genèse 22, 13, 14. Yahvé Rapha, l'Éternel qui te guérit. Exode 15, 26. Yahvé Nissi, l'Éternel ma bannière. Exode 17, 15. Yahvé Shalom, Éternel paix. Juge 6, 24. Yahvé Raha, l'Éternel mon berger. Psaume 23, 1. Yahvé Tsidkenu, l'Éternel, notre justice. Jérémie 23, 6. Il y a encore, nous n'avons pas fini et nous ne pouvons l'épuiser. L'Éternel des armées, ici c'est le synonyme du Créateur tout-puissant, du Dominateur suprême, le Maître de l'univers tout entier, du cosmos tout entier. Adonai, Seigneur, Maître, exprime la souveraineté de Dieu. Il y a encore le Saint d'Israël. Il manifeste là sa sainteté. Il est saint. Sainteté semble être synonyme de divinité. Cela exprime sa pureté, son horreur du mal, sa haine du péché. Sa gloire, son élévation, sa grandeur. Et enfin, pour ce que nous connaissons, nous humains, nous êtres de chair, enfin, Père, alléluia, Père, qu'on trouve aussi dans l'Ancien Testament, nous parle de l'auteur de toutes choses, de celui qui est à l'origine de toutes choses, nous parle d'amour, d'amour immense envers ce qu'il a créé. Dieu a créé, mais il aime ce qu'il a créé. Et Dieu vit que tout était bon. Tout est renfermé là. Quand on parle de Dieu, voilà de quoi on parle. Tout est renfermé là. Oh, mais quelle mauvaise utilisation du nom de Dieu ne faisons-nous pas trop souvent. Quand on dit Dieu, cela comprend tous ces noms de la même personne divine. Un usage irrespectueux des choses saintes, et particulièrement de son nom, est interdit. Tu n'utiliseras pas le nom de ton Dieu en vain, car Dieu ne te tiendra pas pour impuni, ne tiendra pas pour innocent celui qui utilise son nom en vain. Son nom représente sa personne. Son nom représente son caractère, son œuvre. Son nom nous le fait connaître. Son nom nous le révèle. N'utilise pas le nom de Dieu en vain. Quand tu entends parler de Dieu, tu vois tout cela en un flash, en un clin d'œil. Le Tout-Puissant, je ne l'ai jamais vu, mais je vois ses œuvres. Je le contemple dans les étoiles. Je le contemple dans la plante qui pousse. Je le contemple dans l'enfant qui sort du ventre de sa mère, quel miracle. Je le contemple dans ses œuvres merveilleuses, dans ce fleuve qui passe et qui passe, dans ces saisons qui viennent les unes après les autres, dans cette pluie qui tombe, dans ce tonnerre qui déchire les nues. Je le contemple, je le vois, alors que mes yeux contemplent les étoiles au-delà, au-delà, bien loin encore. Personne n'a pu sonder l'espace, malgré tous les appareils sophistiqués jusqu'à aujourd'hui. Plus on arrive plus loin avec ces appareils, plus on découvre encore d'autres mondes. La limite n'est pas connue, car ce Dieu est illimité. Je le vois et j'ai le témoignage du Saint-Esprit dans mon cœur depuis le jour où j'ai cru en lui. Témoignage de sa puissance, de son amour, de la réalité de ce Dieu. Ne l'utilisez pas en vain. Cela veut dire le vider de sa substance, le vulgariser, l'insulter, le mépriser, le salir, le prononcer sans en mesurer la force et l'autorité, la valeur infinie, la profondeur, la qualité, l'autorité, la puissance. L'utiliser en vain, c'est de l'utiliser de façon que ça le vide de sa signification, de sa majesté, de l'utiliser mal à propos. Que se passerait-il si vous juriez au nom du premier homme de l'État du Congo? Que se passerait-il si vous maudissiez au nom du premier homme de l'État du Congo? Que se passerait-il si vous disiez son nom envers et contre tout, à toute occasion, quand vous êtes fâché, en colère, et que sais-je, et que sais-je? Je crois que bientôt, vous auriez quelqu'un qui vous prendrait comme cela et qui vous punirait. Irrespectueux. Irrespectueux. Pas de politesse. Pas vrai? Et qu'est-ce que nous faisons avec le nom de Dieu? Nous le vidons de son contexte, nous le vidons de sa signification et nous le détruisons. Sa majesté. Dans 2 Timothée 2,9, il est dit: quiconque prononcera le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Si tu veux demeurer dans l'iniquité, ne prononce pas son nom. Quand on utilise ou on parle au nom de Dieu, de Jésus, cela doit être pour apporter l'espoir, la délivrance, la liberté, la guérison aux autres. Utiliser son nom pour, par imprécation, avec fureur, pour maudire son prochain. En utilisant son nom, de cette façon, nous blasphémons et il ne vous tiendra pas pour innocent. Vous êtes en train de vous maudire vous-même. Vous ne vous mettez pas comme étant sujet, mais comme étant ennemi. Vous vous mettez en position de coupable, en opposition avec les intentions de Dieu. Son nom est béni. Et il est là pour être prononcé que dans la bénédiction. Celui qui agit de la sorte est spirituellement fou et insensé, déséquilibré, sans respect, profane. Vous utilisez son nom de façon dégradante et vexatoire. Vous le méprisez et en donnez une fausse image autour de vous. Pour certaines personnes, c'est presque une habitude que de l'utilisation de son nom de cette façon-là est tellement habituelle que cela devient un réflexe blasphématoire. Il y a autorité dans son nom, il y a puissance dans son nom. Son nom ne devrait jamais être utilisé pour un avantage personnel ou pour faire du mal à un autre. Psaume 139, il est dit, verset 20, « Ils prennent ton nom pour mentir. » Ils prennent ton nom pour mentir. Combien de fois des gens ont dit, et je l'ai vu combien de fois dans ma vie, même dans les villages, au milieu de notre société, quand on veut jurer la vérité de Dieu, disons, et on fait comme cela. Ne l'avez-vous pas vu? Et on ment. Que pouvons-nous dire de la religion et le nom de Dieu? Sachons bien, reconnaissons que la religion est par là, indirectement, son nom a été utilisé bien des fois dans l'histoire, jusqu'à nos jours, comme un outil d'influence politique pour manipuler les autres et même comme support et justification de la destruction de l'autre. On l'a vu dans l'histoire. Au nom de Dieu, on a massacré des populations entières. Au nom de Dieu, on a massacré ceux qui ne voulaient pas croire ce que vous croyez. Du temps des guerres de religion en Europe, combien de milliers ont été tués au nom de Dieu? Du temps du nazisme de la dernière guerre mondiale, les nazis sur leur boucle de ceinture, il était écrit « Dieu avec nous ». Le nom de Dieu. Le nom de Dieu a été utilisé en Afrique du Sud, dans le régime de l'apartheid, pour justifier l'action honteuse. À travers l'histoire, nous voyons que ce nom a été utilisé pour la manipulation des masses. On a utilisé la religion pour masquer et même justifier l'oppression et la domination de l'autre, au mépris de la liberté individuelle, au mépris de la liberté de conscience, au mépris de la liberté de s'exprimer devant Dieu, tel qu'on le sent dans son cœur d'après sa parole. On en a abusé de ce nom pour justifier la destruction de l'autre, à tel point que pour le profane, il a de Dieu une image négative. Alors qu'il est écrit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, et non pas tué, et non pas détruit. Beaucoup dans l'histoire jusqu'à aujourd'hui ont utilisé le nom de Dieu pour faire ce qui est mal, pour dominer la conscience des autres, pour ôter les libertés et mettre l'homme dans l'esclavage. Les religieux chrétiens ont utilisé le nom de Dieu abusivement, en vain, et ont donné une fausse image au monde qui ne le connaissait pas, du Dieu saint, du Dieu juste, du Dieu d'amour, du Dieu de vie, Et on en a fait un Dieu destructeur de mort, du Dieu de pardon, du Dieu de patience, du Dieu lent à la colère et riche en bonté et en miséricorde, qui ne nous compte pas selon nos iniquités, qui nous accepte tels que nous sommes et qui nous change pour que nous soyons à son image. Et que dire? Et que dire enfin de ces faux prophètes qui manipulent le nom de Dieu, son nom saint, pour prophétiser et dire des mensonges alors que Dieu ne leur a jamais parlé? Que dire de ces charlatans de l'Esprit de Dieu, de ces prétendues révélations contradictoires les unes aux autres, de ces prétendues révélations qui, jusqu'à aujourd'hui, n'ont rien représenté ni rien changé? Dans Deutéronome, chapitre 18, verset 20, il est dit: « Le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire, ce prophète-là sera puni de mort. » Peut-être, diras-tu, comment connaîtrons-nous la parole de l'Éternel que l'Éternel n'aura point dite, quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas? Ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Combien d'hommes sont venus me voir, même ici dans mon bureau, ou m'ont envoyé des lettres. Il y a de ça déjà bien des mois, peut-être une année, je recevais une lettre d'un prophète, entre guillemets, qui me disait que tu dois partir au Cameroun, faire des grandes campagnes, tout le pays va être secoué. Tu dois partir et si tu pars pas, tu perds toute la bénédiction de Dieu, tu ne pourras plus rien faire. Faux prophète! Pourquoi? Parce que tu le parles au nom de Dieu. C'est pour ça que tu es un faux prophète. Attention! Tu peux me dire, il me semble que, j'ai l'impression que, quant à moi, je pense que, tu peux le dire. Mais quand tu dis au nom de l'Éternel, attention. Attention, mes frères! Et si tu es un faux prophète, tu es digne de mort. Ça, c'était la loi de l'Ancien Testament. Aujourd'hui, nous sommes sous la grâce. Dans la grâce, on dit, repens-toi. Pourquoi alors? Si Dieu veut me parler à travers la bouche d'un autre, ne met-il pas un témoignage dans mon cœur? Dieu ne m'a rien dit à moi. Dois-je parler? Dois-je partir? Dois-je tout changer le cours de ma vie à cause de toi et de ce que tu me dis? C'est trop dangereux. C'est trop dangereux. Ce n'est pas parce que Dieu te parle, soi-disant, que je dois faire ce que tu me dis. Je dois avoir la confirmation et la preuve. Attention avec tous ces pseudo-prophètes qui vous racontent des histoires qui ne tiennent pas debout, qui veulent vous flatter, qui veulent faire je ne sais pas quoi. Frères et sœurs, tu n'utiliseras pas le nom de ton Dieu en vain. Nous aurons tous des comptes à rendre devant lui. Des comptes à rendre. Tu n'utiliseras pas le nom de ton Dieu en vain, car Dieu punira celui qui utilisera son nom en vain. Il ne tiendra pas pour innocent. Il est mieux de faire comme les Israélites. Chaque fois que paraît son nom, tu le vois de tes yeux, mais tu ne le prononces pas, car il est saint. Il est saint. Et toi, quelle est ta position? Es-tu saint? Non, tu es souillé, tu es menteur, et tu utilises son nom en vain. Tu prétends avoir reçu une révélation, mais tu n'as pas de révélation. Et si ce sont des révélations qui viennent de Dieu, c'est pour édifier, c'est pour bénir, ce n'est pas pour diviser et détruire, Comme dernièrement j'ai entendu un soi-disant jeune homme qui a eu une soi-disant révélation et qui est en train de détruire et diviser le travail. Un travail béni pourtant. Pourquoi? Parce qu'il a utilisé le nom de Dieu en vain. Voilà pourquoi. Dieu ne tiendra pas pour impuni celui qui utilise son nom en vain. Baissons la tête. Seigneur, nous sommes devant toi et nous avons essayé de comprendre ce que tu veux nous dire. Ô Père, Père, aide-nous à saisir ces vérités. Aide-nous, Seigneur, à les comprendre et de ne pas nous laisser abuser par nous-mêmes, par notre rêverie, par nos ambitions personnelles. Seigneur, nous t'en supplions, viens à notre aide. Peut-être que vous avez utilisé son nom en vain et vous avez besoin de demander pardon. Peut-être que vous avez juré ou maudit en son nom. Peut-être que vous vous êtes mis en colère en utilisant son nom. Peut-être que vous avez, d'une façon ou d'une autre, abusé de son nom. Et pour cela, vous avez donné une fausse image devant les autres. Si tel est le cas, lève-toi là où tu es pour le reconnaître et demander pardon. N'attends pas, mon frère, ma sœur, utiliser son nom en vain. Ce n'est pas une petite chose. Qui que vous soyez dans cette salle, vous avez abusé de son nom d'une façon ou d'une autre. Reconnaissez-le et demandez pardon au Seigneur, car lui seul peut vous pardonner. Mais souvenez-vous qu'il punira ceux qui utilisent son nom en vain. Pourquoi dire son nom quand tu te cognes le pied à une pierre? Pourquoi crier son nom quand tu te pinces la main ou le doigt dans la portière de la voiture? Ça, c'est utiliser son nom en vain. Attention, mes frères, Dieu ne tiendra pas pour impuni celui qui utilise son nom en vain. C'est un nom sacré. C'est un nom qui doit être dans ton cœur. Et quand tu le prononces avec respect. Tu le prononces avec en pensant qui il est. Tu le prononces de façon polie, que dis-je. Je cherche des mots, mais tout en étant conscient à qui tu parles, le Créateur de l'univers. Combien de fois j'entends des chrétiens qui, lorsqu'ils prient, ils sortent le nom de Seigneur 20 fois pour faire 2 phrases. Ça, c'est utiliser le nom du Seigneur en vain. Attention quand vous priez. Certains prient et quand ils sortent Seigneur à chaque mot, Seigneur, Seigneur, Dieu tout-puissant, Dieu saint, sans même penser, c'est une habitude. Non, nous ne devons pas dire son nom par habitude, par routine. Nous ne devons pas dire son nom comme étant quelque chose sans valeur. Nous devons être conscients chaque fois que nous parlons de lui. Conscient de sa sainteté et que cette sainteté soit en nous. Ô Dieu puissant, nous nous levons devant toi parce que nous reconnaissons, Seigneur, en nous-mêmes que tant de fois, et nous te le confessons, tant de fois nous avons utilisé ton nom en vain, nous l'avons utilisé à tort et à travers, nous l'avons utilisé de façon injurieuse, nous l'avons utilisé sans aucun respect, nous l'avons utilisé de façon que tu désapprouves et qui ne t'honore pas. Père, Père céleste, pardonne-nous. Oui, nous te disons Père, parce que auprès de notre Père, nous venons en tant qu'enfants et nous te disons pardonne-nous. Pardonne-nous cette offense, cet abus, cette manque de courtoisie, ce manque d'honnêteté. Seigneur, pardonne-nous. Ton nom est au-dessous de tout nom. Ton nom est un parfum répandu. Ton nom est un nom puissant et saint. Rends-nous conscients de cela. Merci Seigneur, parce que tu nous pardonnes. Reprenons nos places. Vous tous qui vous êtes levés, si vous désirez un entretien, nous sommes là à votre disposition avec nos conseillers. Frères et sœurs, gardez ces paroles dans votre cœur, je vous en supplie, je vous en supplie. Et connaissez le Dieu puissant. Quand nous parlons de Dieu,
ce grand Dieu avec un D majuscule, ce Dieu qui est unique, nous prononçons tous ces noms qui font sa personne. Souvenez-vous de cela. Prions pour ces offrandes maintenant. Père, c'est en ton nom que nous déposons ces offrandes et ces dîmes. Et nous te demandons de les multiplier, de les bénir. Et que ce soit une bénédiction pour l'Église, ton Église, une bénédiction pour chacun. Seigneur mon Dieu, nous sommes heureux de participer à ton œuvre. Et à cause de cela, Seigneur, tu nous bénis et tu nous donnes chaque jour ce qui nous est nécessaire. Merci, Père, pour le privilège de te donner.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.